Cette semaine à la vie en BD, on parle de cyberdépendance autour de l'album Tant pis pour les likes de Bach. Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Évidemment, c'est dans le titre, on parle de bande dessinée, on parle de 9e art. Et cette semaine, en fait, nouvelle sortie, en fait, quelques auteurs de Québec d'ailleurs qui ont offert des albums dans les derniers mois. Faut dire qu'il y a un peu un appétit pour les sorties, je pense, autour du Salon international du livre de Québec. Alors, on aura l'occasion de jaser, de recevoir des gens en studio, dans les studios de CKRL, pour justement parler de ces albums. Et on va commencer ça. Cette semaine, je parlais dans l'introduction tout à l'heure de cyberdépendance. Alors, on va creuser ce livre que nous a offert Bach il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle Tant pis pour les likes, qui nous amène justement sur le terrain de la question de la cyberdépendance, de notre relation avec les médias sociaux. Au fil d'un récit entre essais biographiques et bande dessinée humoristique, bref, plusieurs saveurs, on aura l'occasion d'explorer tout ça avec son autrice dans quelques instants. Avant de se lancer, j'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que rendu au 33e épisode de la saison, si vous ne le saviez pas, c'est possible également d'écouter l'ensemble des émissions en rattrapage, à la fois pour cette saison, mais à la fois pour les 12 précédentes. Vous allez se faire un tour sur lavieenbd.com. Je vous rappelle également qu'on est sur Instagram et sur Facebook si jamais vous nous cherchez. Alors je ferme les parenthèses médias sociaux et on va ouvrir la grosse parenthèse médias sociaux. Je disais ouvrir la grosse parenthèse de médias sociaux, mais qui est aussi une parenthèse de pause de médias sociaux qui est un peu au cœur de ce récit. On va le détailler, on va le creuser, on va l'explorer. Donc ça s'appelle Tant pis pour les likes. C'est disponible chez Nouvelle Adresse et c'est d'Estelle Bachelard alias Bach. Bonjour.
Bonjour.
Alors Estelle, en fait, d'entrée de jeu, je pense que ça faisait un certain temps, on avait vu pas mal passer de tes créations, te donner beaucoup dans le duo, dans les collaborations. Est-ce que c'est un peu les circonstances qui t'avaient amené à mettre sur pause ton travail d'autrice scénariste? Ou est-ce que c'est un peu le hasard qui t'a ramené justement vers cette posture-là?
Je dirais que c'est une part de hasard, puis une partie aussi de réflexion sur ma carrière aussi. J'avais fait des bandes dessinées vraiment complètement à mon nom, donc illustration et texte. Je me suis permis d'aller explorer d'autres types de projets, d'aller beaucoup en illustration jeunesse, entre autres, essayer des collaborations avec d'autres auteurs pour de la bande dessinée, entre autres. Puis ça m'a permis d'explorer ça, voir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Puis finalement, je me concentre plus pour mes projets personnels désormais.
Donc t'explorer, puis en même temps, ça permet de voir aussi comment d'autres envisagent le travail de scénario, comment les collaborations se placent. Donc j'imagine qu'il y a une notion d'apprentissage aussi, mais de toute façon, sur plusieurs années, nécessairement, la Estelle de « c'est pas facile d'être une fille », puis la Estelle de « tant pis pour les likes », en termes de maîtrise du travail et du médium, on peut imaginer que ça a évolué.
Oui, la personne en tant que telle a évolué aussi, là. On parle de, je sais plus, ça fait combien d'années, là? On approche de 10 ans, je pense, que j'ai commencé la bande dessinée. Entre autres, je suis devenue maman. Ça change quelqu'un. J'ai changé ma façon de travailler. Maintenant, je travaille sur iPad. Par exemple, avant, j'étais avec Photoshop sur mon ordi. Donc, puis d'avoir exploré toutes sortes d'autres styles, c'est sûr que oui, j'arrive ailleurs aujourd'hui, c'est sûr.
Et avec Tant pis pour les likes, je trouve quand même un peu, et justement je trouve que ça se distingue par rapport à la production que t'as faite en tant qu'illustratrice ou en tant que dessinatrice sur des projets de d'autres scénaristes. Donc là on retrouve quand même un peu une esthétique, je dirais un peu épurée à la façon de tes premiers livres. Donc avec des fonds de couleurs, des personnages qui ressortent un petit peu, centrés aussi sur les personnages, sur le dialogue, sur la situation comme telle. Est-ce que c'était un peu naturel de revenir à cette esthétique-là ou c'était pour un peu le plaisir aussi de retrouver ce qui t'avait amené au départ à travailler comme autrice BD?
Ben Effectivement, ben je pense que les gens reconnaissent mon style quand il est comme ça. Je pense que c'est rendu un peu ma signature. Mais ce type de projet-là, je le fais vraiment pour moi. Puis de le faire comme ça, on dirait que ça m'amène une certaine facilité, peut-être. Pas dire que c'était fait par paresse, absolument pas, mais c'est ça qui me vient d'emblée, en fait, à la base. Puis je trouve que pour le type de sujet que j'aborde, ça me semble correct de pas nécessairement aller dans les décors puis dans trop d'élaboration du dessin, d'aller vraiment avec l'essentiel, finalement. Je pense que ça fonctionne bien, donc je reste comme ça pour l'instant pour ce type de sujet-là.
Et justement, le sujet, je pense que, commençons par le sujet, on reviendra sur les éléments visuels en cours de route. Un sujet qui est pas nécessairement facile non plus, puisque tu te mets en scène autour de ce sujet-là, dans ta relation avec ça. Donc, on parle de cyberdépendance, on parle de médias sociaux. J'imagine que c'est un projet un peu qui se développe en deux temps. Dans un premier temps, on constate qu'il y a un enjeu, puis dans un deuxième temps, on décide de raconter, de témoigner sur cet enjeu-là, dans le fond.
Ben effectivement, puis je pense que dans n'importe quelle bande dessinée ou livre autobiographique, je le mets en guillemets, là, les gens le voient pas, mais en guillemets autobiographique, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été vécu à la base puis qu'on a envie de le raconter par la suite. Donc quand j'ai commencé à faire un arrêt de réseaux sociaux, de certaines réflexions par rapport à ma propre utilisation de Facebook, Instagram et compagnie, ben l'idée à la base c'était pas de faire un livre. T'sais, c'est venu par la suite avec certaines réflexions, avec des notes que j'avais prises, avec une observation de la société en général, donc que j'étais pas toute seule dans ma situation. Donc oui, c'est comme venu par la suite plutôt que comme le projet à la base qui... J'y avais pas pensé à la base, c'était pas voulu.
En fait, ce qui était voulu, c'était la pause.
Oui.
Et donc, c'était le constat. C'est nécessairement ce qui est venu en premier, c'est de dire, ben OK, j'ai un problème, finalement, je pense que faut que je prenne une distance par rapport aux médias sociaux. Et dans ton cas, c'est un peu... Ben, en fait, j'ai l'impression que d'un côté, ça valorise un peu le fait que c'est toi qui t'intéresses à ça, parce que je me rappelais au début, tu t'es fait connaître par les médias sociaux. Ça a été, on parlait beaucoup de toi comme étant une des premières au Québec à avoir vraiment tiré le potentiel. Quand ton premier album est arrivé à cause des médias sociaux, il y avait beaucoup de demandes, ça s'est vendu rapidement, plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser, parce que c'était à l'époque où on était naïf et on savait pas qu'il y avait une grosse audience qui se développait en arrière de ça. Et là, une dizaine d'années plus tard, ben, avec les médias sociaux qui ont évolué, qui ont progressé, ben, on imagine qu'on continue à prendre la place et qu'à un moment donné, il y a Estelle qui s'est réveillée un matin en disant « Mais semble que ça a plus rapport, mais semble que ça a plus d'allure. »
Ouais, ben qu'il y a une question que qu'est-ce qui fait du sens là-dedans. Donc oui, au début, j'étais une jeune illustratrice, jeune dans ma jeune carrière qui voulait être connue et bon, je pense qu'on fait tout ça un peu, c'est normal, on veut promouvoir notre travail. Mais avec le temps, tu dis bon, là mon nom est fait, je crois, en tout cas en grande partie. Est-ce que j'ai tant besoin que ça d'aller chercher autant de prendre autant de temps sur les réseaux sociaux pour développer ça alors que ça m'apporte pas vraiment de bonheur, puis en fait ça me crée plus de l'anxiété que d'autres choses là. Ouais, l'évolution par rapport à ça puis par rapport à la promotion de mon travail a vraiment changé, puis juste par l'utilisation des réseaux sociaux, ça, justement, si on parle il y a 10 ans, ben quand j'ai commencé à publier de la bande dessinée sur Facebook, effectivement, j'étais comme une des premières au Québec à commencer ça. Je sais que mes collègues un peu plus expérimentés me regardaient un peu avec un point d'interrogation et se demandaient qu'est-ce que je faisais là. Mais c'était plutôt facile. Je publiais mes bandes dessinées, ça se partageait. La promotion se faisait un peu par elle-même. Mm-hmm. Tu sais, c'était comme du bouche à oreille. Maintenant, c'est tellement plus compliqué. C'est un travail en soi de gérer des réseaux sociaux. Donc, tu sais, je le vois, là, faire la promotion de ma bande dessinée en ce moment, c'est vraiment pas la même chose qu'il y a quelques années déjà. Là.
Mm. Oui, puis dans le contexte, puis t'en parles aussi dans ta BD, parce que pour le contexte, tu passes quand même une bonne partie de la première portion, donc les 20-25 premières pages, à justement documenter un peu la réalité, le problème au bout du compte que tu as fini par ressentir. Et entre autres, il y a l'idée que ben, tu as tes médias sociaux personnels, tu as tes médias sociaux professionnels comme illustratrice, tu as tes médias sociaux professionnels comme doula, comme accompagnante à la naissance. Donc à un moment donné, subitement, ben, ce travail à temps plein, c'est pratiquement ces 7-8 médias sociaux que tu gères en parallèle, qui ont chacun leur langage, qui ont chacun leur approche, parce que comparativement il y a 10 ans, ben ça s'est ajouté. Il y en a qui sont basés sur l'image, sur la vidéo, sur le texte, sur le dessin. Ça devient déjà à temps plein.
Oui, là, oui, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont payés pour faire que ça, là. C'est parce que c'est un travail temps plein faire ça. Puis on se fait prendre dans une sorte de spirale. J'en parle aussi de la spirale du divertissement. Donc, tu sais, t'arrives pour aller publier quelque chose qui a rapport avec le travail, puis 2 minutes après, tu te rends compte que t'es vraiment plus en train de travailler, t'es en train de perdre ton temps à regarder une vidéo sans intérêt, finalement, tu sais, qui t'apporte pas rien en tant qu'être humain. Ça te fait pas grandir du tout, là. Donc, c'est ça. On est là pour le travail, puis finalement, on se rend compte qu'on a perdu une heure de temps pour... Pourquoi, finalement, tu sais, Ouais.
Oui, puis dans un contexte où... j'imagine qu'il y a un aspect un peu insidieux dans la mesure où... Tu nous avais déjà habitués, et tu t'étais déjà, j'imagine, habitué à utiliser les médias sociaux pour te raconter, mais dans l'anecdotique, je veux dire, la petite BD, une planche, quelques casses, le gag, le petit punch, et c'est ça que tu diffusais beaucoup au départ. Et tranquillement, ben, la story devient un peu le vecteur principal avec lequel on se raconte, et on y va avec la petite anecdote cute, la petite anecdote drôle, le petit élément qui est aussi mis en scène, mais j'imagine qu'entre faire une story puis faire une BD, il y a quand même un rapport temporel qui est pas le même pour un résultat de like puis de satisfaction puis de retour qui peut être quand même, j'imagine, comparable à la limite.
Oui, ben c'est très frustrant parce qu'effectivement faire de la bande dessinée c'est très long. Même illustration, donc tu sais, de créer vraiment une publication de A à Z qui va être illustrée et qui va avoir un petit punch comme tu dis puis tout ça. On s'entend que c'est vraiment pas le même temps que de faire une story. T'sais, la story, j'ai une photo, je mets 2-3 textes puis merci bonsoir, c'est réglé. Puis oui, effectivement le genre de retour est à peu près le même. C'est un peu moins facile de voir le retour direct, là, parce qu'on voit pas nécessairement des partages, tu sais, ça se partage pas très bien, les stories. Mais, tu sais, ça se consomme hyper vite. Puis ça devient un peu moins frustrant de dire, ben, j'ai passé 2 minutes à faire une story, ça s'est consommé en claquant des doigts, mais la BD, elle m'a pris des heures, ça dépend lesquelles, là, mais tu sais, ça peut me prendre un certain temps à faire, puis ça va être consommé aussi rapidement qu'une story. Puis ça va être encore plus frustrant parce que de la façon que c'est publié, particulièrement sur Facebook, ben, t'en as pas de likes, là, c'est plus ce que c'était, là. C'est plus comme dans mon temps. Avant, je le vois beaucoup par rapport à mon deuxième travail d'accompagnante à la naissance où j'ai développé des nouveaux réseaux sociaux avec ça. Puis des fois, tu publies quelque chose qui t'a pris un temps fou à faire, puis t'as juste aucune vue, là. Zéro, là. Un beau zéro de personnes qui l'ont vu. Donc, c'est sûr que ça amène une certaine frustration, tu sais, c'est ça. Donc, beaucoup de temps pour quoi, en bout de ligne, tu sais.
Oui, puis j'imagine que c'est un peu ces questions-là qui finissent par devenir pernicieuses, où tu finis par te demander la valeur temporelle de ce que tu fais versus le temps de consommation, versus ce que ça te rapporte, versus la place que ça prend dans ta vie, dans ton quotidien aussi.
Oui, c'est ça, parce que les gens qui vont pas nécessairement gérer des réseaux sociaux, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point ça prend du temps préparer des publications. C'est même quand c'est ça, je le mets en guillemets, même si c'est juste une photo, je veux dire, faut choisir la photo, l'améliorer idéalement pour que ça paraisse bien sur les réseaux sociaux, faire le bon texte, le corriger, l'adapter, mettre des couleurs qui vont puncher, préparer un texte qui va aller avec. Si on veut le promouvoir, ben est-ce qu'il va falloir payer de la publicité pour ça? Probablement. Donc là, on met à combien? Puis là, faut choisir le public cible, puis etc., etc. C'est beaucoup de travail pour quelque chose qui est vu, qu'on va scroller sur notre écran. On veut le voir passer, puis oups, c'est déjà oublié, là. Mm-hmm. C'est beaucoup de temps pour la consommation.
C'est beaucoup de temps pour la consommation. Oui. Ça encourage à la consommation aussi, comme tu disais, parce qu'à un moment donné, t'es dessus, fait que tu vas regarder les autres publications, oui. Tu t'amuses. Puis là, finalement, tu te rends compte que tes enfants sont en train de jouer, puis toi, t'es pas là, finalement.
Oh oui, qu'on se déconnecte en bout de ligne, parce que ça, le téléphone nous avale un peu, là. C'est un peu un genre de trou noir d'informations, mais comme je dis, autant d'informations qui peuvent être très pertinentes que la plupart du temps pas très pertinentes, en fait. Là, tu te dis, ouais, j'ai pris ce temps-là pour ça, c'est un peu du gaspillage, finalement.
Et ça a été quoi dans tout ça, le déclic? Parce que, pour contextualiser, tu l'as esquissé, on peut le détailler un peu, mais t'as décidé à un moment donné, OK, on va se donner un mois, je déconnecte des réseaux sociaux, je prends une distance, je ressens le besoin de prendre une distance. C'est intégré aussi dans l'album, c'est devenu en cours de route, tu le disais, le moteur de ce récit-là. Mais qu'est-ce qui t'avait incité à la prendre, cette pause-là? Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur ou la goutte qui a fait déborder le vase, qu'on comprend qu'il commençait à être plein à un certain point?
Oui, c'est ça. C'est sûr que le contexte n'est pas tant mis, mais je pense qu'il est important à préciser. C'était en 2020, on sortait du premier confinement. Il y avait comme une sorte de montée des gens désagréables sur les réseaux sociaux. C'était de pire en pire. Parce que d'un côté, les réseaux sociaux nous ont comme sauvé la vie socialement pendant le premier confinement. Ça nous permettait d'avoir un certain contact avec nos amis, nos familles et le monde extérieur. Mais après ça, ça s'est mis à devenir comme un peu toxique. Et ça devenait, les gens devenaient, on voyait que les gens allaient pas bien, en fait. Les gens répondaient des affaires très, je pense pas que ça soit vraiment amélioré, là, mais on dirait que ça a vraiment empiré à ce moment-là. Puis cet été-là, il y avait eu le mouvement Moi aussi, qui avait été Il y avait eu des grosses vagues de dénonciations cet été-là. Donc, tu sais, les réseaux sociaux étaient très lourds, là. C'était pas très agréable d'y aller. Puis, c'est ça, je sais qu'il y a eu d'autres personnes cet été-là qui avaient pris une pause. C'était un genre de... Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens à ce moment-là qui ont eu une sorte de trop plein de réseaux sociaux. Puis je pense que peut-être le fait aussi qu'on a pu se mettre à voir des humains en vrai, ça l'a comme aidé à prendre une pause aussi, là, de prendre un certain recul. Mais c'est ça, le contexte faisait qu'on avait vraiment une genre d'overdose de réseaux sociaux dans ce moment-là. Donc, c'est vraiment venu de cette période-là où j'entretenais beaucoup mes réseaux sociaux, autant d'une question de je vais publier un coloriage par jour pour les gens, là. Tu sais, il y a eu une sorte de...
De mouvement de coloriage, effectivement.
Oui, ben, en même temps, ça a été super... C'est drôle, il y a des parents qui sont venus me parler de ça pendant le Salon du Livre. Donc, d'un côté, ça me permettait d'avoir une sorte de routine, de ne pas virer folle un peu pendant le premier confinement. Donc, tu sais, tous les jours, je faisais un coloriage, puis je sentais que les parents attendaient après ça, parce que tous les parents cherchaient des activités pour leurs enfants.
Désespérément.
Puis là, on avait toutes sortes d'activités sur les réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour occuper les enfants, puis nous occuper nous, puis bon... Donc, c'était vraiment beaucoup. Puis là, c'est ça, en plus, je faisais des stories pour justement dire, ben là, voici les bricolages que je fais pour mes enfants. T'sais, peut-être que ça va aider les gens. Puis... Donc, genre de pression de, OK, je vais alimenter un peu la vie des autres parents qui sont un peu dans la même situation que moi. Mais ça, en bout de ligne, c'est ça, c'est brûlant, finalement.
Et donc, tu décides, OK, on prend une pause et de là, ben on amorce cette pause-là. Et tu l'as dit tantôt, en cours de pause, Tu t'es dit que tu allais commencer à documenter et ça a été un peu les départs de Tant pis pour les likes. Mais j'imagine que ça a dû être un choix assez difficile à faire, de dire bon, OK, on va faire un livre sur ça, parce que nécessairement la pause amène au côté plus sombre de ta relation avec les médias sociaux, à cette cyberdépendance-là, justement. Donc, on en parle avec la famille, on en parle avec les parents, le chum. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se lancer un peu là-dedans, sachant que cet ouvrage-là va aussi nous confronter à un côté qu'on aime un peu moins de soi-même, au bout du compte?
Effectivement, c'est la partie que j'aime pas de moi-même, mais quand je me suis rendu compte que... c'est ça que j'ai... En discutant avec d'autres personnes, à quel point que c'était un sujet très d'actualité, qu'il y avait beaucoup de gens qui se reconnaissaient là-dedans, puis que, en fait, la plupart des gags, des histoires que j'ai racontées, la plupart des gens lisent ça, puis ils se reconnaissent, ou du moins, ils vont reconnaître quelqu'un, mais... C'est quand même rare, les gens qui se reconnaîtront pas, je crois, là. À moins de peut-être de pas avoir d'écran chez soi, je pense que... Parce que, tu sais, même j'en parle aussi dans le livre de est-ce que c'est une question de génération aussi? Ben, pas nécessairement, parce qu'on s'en sert tous d'une certaine façon, différemment, là. Mais oui, donc d'aller parler de ce sujet-là qui est un côté plate, là, de moi-même, c'est sûr que c'était difficile, mais je pense que c'était nécessaire, je crois.
Oui, puis j'ai l'impression, enfin, en même temps, que de décider de se lancer, parce que je regardais le livre, je me disais, t'aurais pu faire un documentaire, un truc sur, en général, on parle des médias sociaux puis des problèmes, mais ça aurait pas eu le même impact en lecture si tu t'étais pas mis au milieu de ce livre-là, puis si t'avais pas levé la main en disant, ben moi, j'ai ça, puis je vais vous expliquer comment je me sens là-dedans, je vais vous expliquer comment je me regarde là-dedans, puis je vais vous expliquer pourquoi, peut-être, il y a des enjeux avec la science et le reste aussi, donc un côté quand même didactique qui est présent, mais ça aurait pas eu le même impact, j'imagine, si tu t'étais pas rendu vulnérable à travers cet ouvrage-là.
Je pense que oui, effectivement, mais tu sais, des documents, justement des documentaires, des trucs sur le sujet, on en voit beaucoup, mais pas tant sur le vécu des gens. Puis moi, j'aime beaucoup les récits personnels, j'aime beaucoup l'autobiographie, j'écoute beaucoup de podcasts sur des récits de peu importe ce qui arrive aux gens, mais j'ai tendance à beaucoup apprendre en tant qu'humain avec des récits, puis de me reconnaître dans l'histoire des gens, là. Pour moi, ça vient comme d'emblée de mettre en scène, puis de de me mettre un peu... comment je pourrais dire ça? De pas représenter quelqu'un d'autre, mais vraiment moi-même, pour dire, regardez, là, moi, je suis pas parfaite, là, donc vous pouvez, comme, me regarder, puis vous trouver mieux, ou je vous dis... Peut-être que ça va vous réconforter de lire ça, vous dire, finalement, je suis pas si pire, tu sais. Mais, tu sais, j'aime toujours aller dans un côté bienveillant. Je pense que d'y aller dans le vécu personnel, ça peut beaucoup aider.
Oui, puis dans la bienveillance envers toi-même aussi, nécessairement, parce que tu peux pas y aller non plus en ayant juste une frustration par rapport à ça. C'est une situation que tu confrontes au bout du compte, mais si tu y vas pas avec bienveillance envers toi, ben là, ça peut aussi juste te déprimer encore plus, je veux dire, ça peut...
Oui, effectivement, c'est sûr que c'est peut-être un... peut-être que j'ai écrit le livre pour être bienveillante envers moi-même, puis me dire que c'est correct, une petite tape dans le dos, C'est beau, là. T'es normal, puis t'es pas toute seule.
Oui, en même temps, il y a deux cercles là-dedans, puis sur le côté didactique, je pense que ça fit avec ce qu'on dit actuellement, c'est qu'il y en a un premier où tu mets un peu en scène le cercle de la dépendance. Dans le fond, tu identifies, puis nous expliquer un peu comment ça se crée, ça génère, puis comment ça crée une dynamique dont il est difficile de se sortir. Et tu récupères, dans le dernier tiers de l'album, cette image de la roue là, mais que t'appliques à un peu la guérison, j'aurais envie de te dire, mais sur le fait que c'est pas parce qu'on constate qu'il y a un enjeu, qu'on agit sur cet enjeu-là, que magiquement non plus c'est réglé. Je veux dire, une dépendance, quelle qu'elle soit, ça se fait pas en criant ciseaux, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut, c'est parce qu'on veut qu'on va travailler pour éventuellement pouvoir. Et d'une certaine façon, ça ancre aussi ce livre-là comme étant, pour toi, j'imagine, un premier, deuxième ou cinquième pas dans ton travail sur toi-même, puis sur cette dépendance-là, au final?
Ben effectivement, ces roues-là, je les trouvais vraiment intéressantes. Je m'étais inspirée du livre, je l'ai écrit à la fin, la référence du livre qui m'a beaucoup inspirée, mon propre livre, La superdépendance. Là, j'ai pas le titre devant moi, là, mais bref.
Il est dans le livre.
Il est dans le livre, j'ai écrit la référence, où je trouvais que justement ces roues-là étaient vraiment significatives, puis ils me parlaient beaucoup, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Puis effectivement, peu importe la dépendance, en fait, ça fonctionne. On pourrait le mettre pour n'importe quelle autre dépendance, puis c'est toujours la même chose, là. Tu sais, on a un problème, on s'en rend compte, on voudrait en sortir. Est-ce qu'on est capable d'en sortir ou pas, là? Il y a comme la branche qui se part en deux. Donc oui, tu sais, je trouvais ça très intéressant visuellement de voir ça. Puis tu sais, je l'avais mis, ironiquement, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de gens qui sont reconnus là-dedans. Mais c'est ça, d'un côté, quand je le regarde, moi, c'est une genre de référence de, bon, où est-ce que je suis rendu dans ma roue? Bon, est-ce que je l'ai échappé? Bon, en ce moment, je pourrais dire oui. Bon, je l'ai échappé. Est-ce que c'est grave? Non, mais tu sais, je prends un pas de recul, puis je peux retrouver une solution, puis de retourner encore dans la roue. Donc, tu sais, il n'y a rien de parfait, puis je pense qu'on revient à la bienveillance, puis être doux envers soi-même, là, mais c'est ça de dire, bon, écoute, les réseaux sociaux sont faits pour qu'on soit dépendants, c'est créé pour ça, littéralement, ça nous crée de la dopamine, on va là, puis c'est difficile d'en sortir. Donc, une fois de temps en temps de l'échapper, c'est pas si grave si ça devient pas, évidemment... comment je peux dire ça? Que ça ne devient pas vraiment une réelle problématique pour l'entourage, par exemple, ou dans le quotidien, là. Évidemment, bien sûr, mais t'sais, de revenir, d'être capable de prendre un certain recul, je pense que... En tout cas, cette illustration-là, personnellement, moi-même, peut-être que je devrais la mettre en affiche.
De voir un peu, OK, où on se situe, comment ça progresse, puis j'imagine un peu d'aller chercher un peu d'encouragement, parce que c'est pas parce qu'on l'échappe qu'on le rattrape pas non plus, tu sais, je veux dire, ça arrive de tomber également, donc ça revient un peu à cette bienveillance-là, et j'ai l'impression que ça ressort quand même aussi, j'imagine un peu dans tes choix de couleurs aussi, t'as pas été avec le même album en noir et blanc, un peu dru, il y a certaines scènes qui résonneraient peut-être un peu différemment, mais là, tes enveloppes de rose, t'as un bleu qui est super riche aussi, des belles tonalités, un dessin qui est quand même, qui est pas sombre en lui-même non plus, comme si tu veux pas non plus nous entraîner dans ce récit-là puis assombrir un peu tout ça avec des choix graphiques qui auraient amené le même texte mais complètement ailleurs.
Mm-hmm. C'est drôle parce que ça me fait penser que quand j'ai commencé à l'écrire, je pense que c'était plus négatif. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était plus des situations... Mais comme je dis, le contexte de cette année-là faisait qu'on n'était pas super positif. Je pense qu'on était beaucoup d'humains à pas aller super bien, là. Donc, ce que j'ai écrit à la base était comme plus négatif un peu. Puis c'est vraiment avec le travail de mon éditeur, avec Renaud Plante, puis l'équipe de Nouvelle Adresse et Front Froid, donc d'aller travailler quelque chose de peut-être un peu plus positif. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Écrire un livre, on n'est pas tout seul, là. On a une équipe avec nous, avec qui en discuter. Donc, j'avais peut-être tendance, des fois, à aller un peu plus négatif parce que c'était ce que je ressentais à ce moment-là. Mais je pense qu'en travaillant, puis justement en allant avec quelque chose de plus positif, puis de plus coloré, puis de c'est ça, de plus sympathique, je pense que c'est meilleur pour le message aussi. Je pense que ça passe mieux.
Oui, puis j'imagine qu'en termes d'expérience de rédaction puis de travail de documentation, parce que, au bout du compte, ta pause aux médias sociaux a duré quoi, 3-4 semaines, mais j'imagine que le travail sur le livre, lui, a duré plusieurs mois. Fait qu'au bout du compte, cette pause-là, dans ta vie, a pris beaucoup plus de place que ce qu'elle aurait pris si aussi elle était limitée à ça. Donc, c'est devenu aussi pour toi, j'imagine, une opportunité de creuser un peu plus, de te creuser toi, de creuser les médias sociaux, de creuser les mécanismes, etc., etc.
Mm-hmm, d'approfondir la réflexion, puis c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, si j'avais fait juste le mois d'arrêt, ça aurait juste été comme une parenthèse dans les dernières années, mais là, effectivement, de le documenter, je trouve que c'est vrai que ça rend comme le truc vraiment intéressant. de faire en sorte que j'ai poussé plus loin la réflexion, j'ai écouté des documentaires, j'ai lu des livres, j'ai vraiment interrogé beaucoup de gens autour de moi. J'ai eu beaucoup plus d'observations, en fait, là, de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Mais oui, le livre en tant que tel a pris, c'est ça, c'est quasiment 3 ans. Mais tu sais, comme je disais à tout le monde, j'ai pas travaillé 3 ans assis devant mon bureau à faire que ça, là. C'est parce que j'ai comme d'autres obligations.
Oui, on les a énumérées tout à l'heure. Elles sont nombreuses.
Je suis quelqu'un d'occupé. Voilà, ben oui.
Oui, puis j'imagine qu'en parallèle aussi, puis ça nous renvoie un peu à l'aspect négatif dont tu parlais tantôt, mais si tu y vas avec un jugement très sombre sur toi-même, avec une approche un peu drue, ben reste que c'est aussi quelque chose avec laquelle tu vis pendant un temps, puis que tu vis encore, parce que là, tu le défends, t'en parles, tu le commentes, il existe, au bout du compte, comme objet public. Ben, veux pas, parce qu'il y a des images, puis on va en parler tantôt, mais qui sont pas nécessairement faciles non plus. Je veux dire, tu te mets en scène dans des trucs qui sont pas glorieux. Évidemment, comme tu dis, je pense qu'on partage ça, puis t'es pas seul avec cette situation-là. On a tous été un peu indignes par moment aussi. Donc, il y a quand même ça, mais reste que ça fait 3 ans, dans le fond, que tu vis ça, que tu te dessines, puis que tu te renvoies au visage que, hey, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai agi comme ça.
Ouais. C'est sûr que quand le livre est sorti, je disais ça à mon chum, je disais comme, oh non, là, mon livre existe maintenant. Là, j'ai plus le choix, faut que je l'assume. Maintenant, c'est sur papier, c'est imprimé pour toujours. Il y a des gens qui ont des copies chez eux de qu'est-ce que je fais de pas correct en tant que parent avec mon téléphone. J'ai pas quoi rajouter là-dessus. C'est vrai que c'est plate que ce soit là. Puis de l'autre côté, ben, à chaque fois, on dirait que je réouvrais mes fichiers puis que j'allais travailler sur mon livre. Il y avait comme une partie de moi. Il y a peut-être ce côté-là qui a fait que c'était difficile à terminer comme livre, parce qu'à chaque fois, je réouvrais mes fichiers, je faisais, ah, c'est déprimant de me voir comme ça. Puis je me rends compte que je suis encore pris dans la boucle. Je suis encore en train d'abuser des réseaux sociaux, encore une fois, tu sais. Donc, de se rendre compte que non, j'ai pas tant évolué que ça depuis que j'ai commencé à écrire ça. C'était difficile à écrire, effectivement. Puis ouais.
Mais c'est qu'on revient à la posture de vulnérabilité. Dans le fond, ça renvoie à un choix que t'as fait de te rendre vulnérable pour nous amener différemment, au bout du compte, ce sujet-là. Et dans le fond, ça devient une posture, effectivement, une posture publique, au bout du compte, que tu donnes, puis un sujet que nécessairement tu dis, ben, publiquement, OK, je suis prêt à le porter, je suis un exemple d'une personne qui vit avec cette dépendance-là, qui la combat, qui travaille avec, puis je témoigne de ça pour, j'imagine, au bout du compte, lancer un peu le débat public autour de ça, participer, contribuer à tout le monde au débat public autour de ça.
Mm-hmm, d'amener une certaine réflexion, puis je pense qu'il y avait une... peut-être un petit côté de moi qui avait envie de montrer aux gens qui me suivaient comment ça se passe vraiment dans mon quotidien. Parce que, tu sais, là, c'est moins le cas. Je pense que les gens sont... Ben, en tout cas, ils sont peut-être juste sur TikTok, là, puis je suis moins... sur Facebook, là,
on finit par être vieux.
Je suis trop vieille pour ça, je t'en ai. Mais oui, des fois, j'en avais des messages de gens qui disaient, hey, quand est-ce que tu vas faire une nouvelle publication? On aimerait ça avoir telle publication. Puis, c'est ça, dans les faits, c'est d'un œil extérieur, tu te dis, oh mon Dieu, la personne ne publie pas souvent, mais dans les faits, c'est parce que je suis une humaine puis j'ai une vie, là. Je peux pas être tout le temps devant mon ordi en train de créer du nouveau contenu pour, c'est ça, comme je dis depuis tantôt, pourquoi en bout de ligne, tu sais, c'est... Puis tu sais, c'était... Il y avait une réflexion dans le livre, en fait, j'en parle. Quand je fais le mois d'arrêt, tu sais, je fais une grosse publication pour les gens en disant, là, attention, je pars un mois. Puis tu sais, je pense que tout le monde a tendance à faire ça, là, d'écrire une genre de publication d'au revoir. Ce n'est qu'un au revoir.
Pour se justifier aussi, on dirait.
Pour se justifier, alors que dans les faits, je suis partie un mois, puis ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Puis je le raconte justement, je reviens après un mois en me disant, ah, oh, les gens ont dû s'ennuyer. Non, pas du tout, là.
Puis c'est ton premier dessin, 3 likes, puis merci, bonsoir.
Ah, bah, oui, ça m'a beaucoup déprimée. J'avais fait un dessin sur plusieurs heures, puis j'étais fière de ce dessin-là, puis je me dis, ça va être la première affaire que je vais publier sur Facebook, puis les gens vont voir à quel point, tu sais, je trouvais ça tangible de voir, voici ce que j'ai fait avec les heures que j'ai pas passées sur Facebook, puis finalement, c'est ça, ça a rien donné, parce que Facebook m'a complètement enlevé de l'algorithme, puis personne n'a vu cette publication-là. Donc, c'était très déprimant.
Peut-être parlons un peu de la structure dans le premier tiers, dans le premier cinquième, mettons, du livre. On établit vraiment le problème et justement, tu nous illustres un peu des situations, des éléments. Et ces éléments-là vont se retrouver par la suite un peu vont ponctuer la balance du livre, donc des anecdotes de ta vie d'avant et autres éléments. Et tout ça vraiment raconté, j'ai l'impression, à la première personne. Bon, à un moment donné, on pourra se poser la question, et ceux qui le liront diront, est-ce qu'elle parle à un chat ou au lecteur? Mais à tout le moins, dans ces pages-là, t'alternes entre parler directement à la personne qui lit, donc t'adresser directement à nous, et à la troisième personne, un peu en narration classique aussi. Est-ce que tu avais une volonté peut-être d'interpeller quand même directement le lecteur dans cette introduction, dans cette mise en place-là, puis au bout du compte, de t'adresser directement à nous?
Oui, c'est intéressant comme, comme réflexion. Étant donné que la bande dessinée, ça se voulait un peu comme, vu que c'est de l'autobiographie, mais un peu documentaire, là, on le disait tout à l'heure, là, c'était un peu un mélange de toutes sortes de choses, je pense que l'aspect documentaire me disait de parler directement au lecteur, en fait, tu sais, de dire, puis comme je le disais tout à l'heure aussi, que je voulais comme le dire aux gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, tu sais, c'était un peu une volonté de leur expliquer vraiment mon quotidien, donc je pense que de leur parler directement, c'était peut-être ce qui allait de soi, tu sais, c'est comme déjà ce que je fais sur les réseaux sociaux, parler directement aux gens, donc un genre de mélange entre les deux, de ouais, d'introspection, mais de vouloir partager aussi au lecteur, là. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, mais oui. Un genre de mélange des deux entre le documentaire puis l'autobiographie, je pense que ça...
Oui, puis après ça, c'est que dans le fond, on retrouve par après, à l'intérieur du livre, j'aurais envie de dire deux niveaux narratifs principaux, parce que ce dialogue-là, cette discussion-là avec toi-même, donc avec nous, d'une certaine façon, ben ça se retrouve évidemment un peu partout par la suite dans le livre, c'est la voix dominante de la première portion. Puis à un moment donné, ben dans le fond, là, t'as la psychologue qui arrive, parce que du moment où tu décides, bon, OK, on prend une pause, ben évidemment, la structure du livre vient suivre un peu la ponctuation de ces semaines-là, et ça devient le dialogue que t'as avec ta psychologue qui devient dominant, donc comme si tu tombais un peu dans un rapport d'expert, où là, on va chercher d'autres propos, où on s'ouvre peut-être un peu différemment parce qu'on parle à un professionnel versus on parle à un lecteur, à un ami, à d'autres personnes qui nous lisent, dans le fond. Donc là, oups, ça devient l'élément peut-être un peu plus dominant d'introspection.
Mm-hmm. Oui, il y a différents niveaux, hein, dans ce livre-là. Mais oui, donc je trouvais que d'amener justement le professionnel dans ce livre-là, parce que c'est vraiment des conversations que j'ai eues avec ma psychologue, je trouvais que ça allait amener un côté vraiment intéressant sur l'introspection, puis de pousser plus loin la réflexion des gens, donc que ça vient pas de nulle part, qu'on est tous... justement que ma psychologue raconte que tous ses patients ont le même problème. Elle dit, il y a personne qui rentre dans mon bureau puis qui me dit pas qu'il est pas dépendant à son téléphone. C'est tout le monde. Puis qu'elle disait que justement, il y avait comme une personne, là, une patiente qui était pas accro, parce qu'elle avait juste pas d'écran chez elle. Donc, c'est des vraies conversations que j'ai eues avec ma psychologue. Puis je trouvais que d'amener ça avec une professionnelle, ça a amené un côté... je sais pas, plus sérieux, plus t'es une base scientifique un peu, là, sans nécessairement tomber dans les statistiques, rien, là, mais de l'appuyer.
Finalement. De l'appuyer, puis te mettre en relation d'aide aussi, parce que pas on va chez le psychologue pour se confronter, mais pour aller chercher une aide externe à creuser un peu. Donc, ça amène un autre niveau de dialogue que ce que tu vas avoir en narration, ou les conversations que tu as avec des amis, avec des collègues, qui nous ramènent un peu à plus des conversations de bureau et le reste, donc qui viennent exemplifier des éléments que tu as développés avec ta psychologue, dans le fond.
Mm-hmm. Ben, c'est ça, d'amener toutes sortes de niveaux, je pense que... C'est ça, je pense que toute personne va pouvoir se reconnaître quelque part dans le livre, là. T'sais, autant les gens qui veulent aller peut-être pousser plus loin la réflexion que des gens qui vont aller plus dans le... léger, entre guillemets, là, sans être négatif. Là. Mon livre est quand même léger à beaucoup, bon, beaucoup d'endroits.
On rit jaune, on rit blanc, on rit tout, mais on rit, effectivement.
Il y a toutes sortes de niveaux, tu sais, donc je pense que toute personne peut se reconnaître. Ou, ouais.
et dans la structure, en fait, ce que je me demandais, dans le fond, le côté, j'aurais envie de dire, on rajoute un peu, tu sais, un essai autobiographique avec des volets documentaires, parce que au bout du compte, c'est un essai que tu fais à partir de ton expérience, à partir de tes recherches, dans ta perspective à toi. Donc, comment tu le structures, dans le fond? Est-ce que t'as noté, mettons, sur le côté, bon, OK, moi, je veux raconter ça, ou je veux parler de tel sujet. Après ça, ben, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est de l'anecdote personnelle? Est-ce que c'est plus des confidences avec le psy? Est-ce que là, on a besoin de la science? Comment c'est un peu structuré ça? Parce que au bout du compte, le sujet est quand même large. C'est pas évident de le circonscrire, là.
Effectivement, je pense que la structure, c'est ce qui a été dans les plus gros défis de ce livre-là. Parce que, mettons, avec C'est pas facile, c'est une fille, la structure était plus facile. C'est plus naturel, par exemple, comme type d'écriture pour moi, du moins. Celle-là, je me souviens très bien de quand j'ai commencé à vraiment écrire le livre. J'ai été chanceuse, j'ai eu une résidence d'un mois à la Maison de la littérature en novembre 2020. Puis je me souviens très bien que sur le mur de ma résidence, là, il y avait je ne sais pas combien de post-it. Donc, un post-it avec chaque sujet, avec le nombre de pages que je pensais. Puis justement, j'avais des trucs plus sombres, plus négatifs, des trucs vraiment plus documentaires, des anecdotes personnelles, des anecdotes qui arrivaient avec des collègues, avec des amis. Tu sais, il y avait de tout. Il a fallu élaguer un peu, là. Mais oui, la structure était plus complexe. Puis jusqu'à la fin, j'ai eu des défis de structure parce que on voulait vraiment qu'il y ait un fil. Puis... c'est la structure de base, c'est beaucoup avec le psychologue, en fait, là, qui revient souvent, là. Donc, c'est ça qui a comme été la base, là, mais de vraiment structurer ça, oui, ça a été un bon défi. D'oser ça, là, oui.
J'ai l'impression que les semaines aussi sont venues marquées parce que tu mets beaucoup d'emphase sur ces semaines-là. Le livre prend littéralement une pause. Je veux dire, on se retrouve avec des pleines pages bleues, avec un titre rose ou bleu, selon le cas. Donc, il y a quand même plusieurs pages à tourner avant de te retrouver dans un mode narratif discursif ou autre. Donc, j'imagine que tout ça est venu aussi chaque semaine un peu sa thématique, un peu ses sujets dominants, un peu son approche aussi. Donc, ça te permet de mieux le diviser d'une certaine façon.
Ben, quand j'ai commencé à vraiment prendre des notes sur cet arrêt-là, même si à la base, c'était pas supposé être un livre, là, j'ai vraiment structuré par semaine d'emblée. J'ai vraiment fait ça naturellement. Ça me semblait être la meilleure façon de structurer mon travail à ce moment-là. Parce qu'on dirait qu'à chaque semaine, il arrivait vraiment un changement. Il y avait vraiment, je remarquais qu'il y avait une différence dans mes réflexions sur mon arrêt. Tu sais, je voyais ça vraiment différemment, vraiment comme, c'est ça, quand t'es dépendant à quelque chose, puis que tu fais un arrêt, puis qu'on dirait que ça, ces semaines-là, ça me permettait de mettre ça plus tangible, peut-être, ou de vraiment d'avoir une sorte de ligne de temps là-dedans. Donc 4 semaines, 1 mois, c'est ça qui est venu d'emblée.
Oui, non, effectivement, puis dans les premières semaines, c'est vrai ce que t'amènes, où on est plus dans... T'es beaucoup au début dans les constats de « mon Dieu, avant... » ou par exemple, tu te parlais tantôt de la mise en scène de soi, ben tu le faisais, on le fait tous un peu, dans le fond on choisit le plan qu'on va montrer de notre cuisine, de notre maison, quel mur on va faire pour quelle photo, ben nécessairement tu le fais, tu l'illustres aussi, ça en est une, ou on joue avec les amis puis il y en a une illustration qui est quand même assez dure, ou t'es avec ton téléphone pendant que t'es en train de balancer ta fille, je veux dire, en même temps, on le voit au parc, c'était pas la seule non plus, mais c'est, je veux dire, on est beaucoup là-dedans, et là, tranquillement, dans le fond, quand on arrive vers la quatrième, là, on est vraiment dans la plénitude, et ces images-là sont remplacées par des images de toi qui lis, les enfants qui jouent, puis finalement, un sentiment de liberté, au bout du compte, qui ressort beaucoup à la fin du récit.
Une sorte de lueur d'espoir qui arrive à la fin, puis oui, c'est drôle, la planche avec moi qui balance ma fille, c'est... Quand je pense à des moments de la BD que j'aime pas, c'est particulièrement une des pages que j'aime pas. Mais en même temps, je me disais, tu sais, j'en vois plein de parents qui font ça, puis c'est plate, OK, aller au parc. Moi, je trouve ça vraiment plate. Okay. Ben, je trouve ça. J'exagère, mais tu sais, ça peut devenir long à un moment donné. Tu sais, pousser un enfant, à un moment donné, c'est cute au début, puis à un moment donné, tu fais comme, bon, là, ça fait 5-10 minutes que je pousse, là, c'est un peu plate. Puis d'emblée, vu que notre téléphone est proche, dès que ça devient un peu plate, on fait la file. C'est comme notre réflexe, tu sais. Mais justement, maintenant, quand je vais au parc, ben j'ai cette réflexion-là, j'ai cette image-là qui me vient en tête. Je fais comme non. Je peux faire d'autres choses. Je peux regarder les pissenlits ou je peux regarder les nuages ou profiter du moment tout simplement, tu sais.
Et puis dans le choix de ces éléments-là, justement, tu sais, il y en a quand même plusieurs contre-exemples, en fait, ou comportements que tu te reproches, que tu mets de l'avant. Comment la sélection, je veux dire, est-ce que tu fais une liste puis tu dis, OK, ceux-là oui, ceux-là non, ou OK, je veux quand même essayer d'illustrer justement tel élément. Donc, je veux dire, j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es fait une liste de ce que t'aimais pas.
La majorité des choses que j'ai illustrées sont dans le livre. Il n'y a pas tant de choses que j'ai enlevées en bout de ligne, là, dans le sens que toutes les petites anecdotes là, sont restées là. En fait, tout ça est venu avec les réflexions quand j'ai commencé à écrire, justement, ben, particulièrement quand j'ai eu la résidence, là, où je me suis mis vraiment à penser à des moments au quotidien que où j'avais l'air de ça, là, comme aller où j'ai le téléphone d'en face. J'ai oublié mon idée, je suis désolée.
Dans le fond, tranquillement, ça s'est mis en forme. C'était plus évident que tu avais besoin de ça, puis ça venait plus instinctivement, dans le fond.
Oui, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai pas eu tant besoin que ça à en enlever. Puis c'est le type d'anecdote que j'aurais fait sur les réseaux sociaux. C'est le genre de publication que j'aurais faite. Tu sais, une illustration avec un punch. Tu sais, c'est comme ça que je me suis fait connaître, et je pense que j'ai une force là-dedans. Là. Donc d'emblée, ça vient. Donc tu sais, ça aurait été des anecdotes que j'aurais pu mettre sur les réseaux sociaux plutôt que de les mettre dans un livre. Là. Je pense que c'est ça.
Puis dans le fond, là, tu mets ce type d'anecdote-là, puis dans ton écho sur 4 semaines, ben faut que tu ailles chercher des trucs un peu hauts dans le fond pour montrer. Pour montrer, puis pour voir, puis pour exemplifier, mais dans le fond, OK, il y a eu une évolution, il y a eu une prise de conscience derrière tout ce travail-là, derrière tous ces éléments-là, donc d'où l'écho un peu plus tard où, par exemple, t'es avec ton chum, tes deux enfants, les enfants jouent, tu lis un livre, c'est relax, ça tranche un peu avec l'ambiance du téléphone du début, mais ça reste le même procédé visuel aussi, donc veut pas en créer des résonances, là.
Ouais, c'est ça. Puis justement, d'apporter des anecdotes qui sont plus positives, qui sont un peu moins décourageantes, je trouvais que ça, en tout cas, ça balançait. T'sais, ça balançait. Puis d'un autre côté, j'avais tendance, quand j'ai écrit le livre, j'avais tendance à faire vraiment beaucoup de planches qui me justifiaient un peu. Puis ça, c'est mon éditeur, là, qui me disait d'arrêter d'essayer de rendre Facebook positif, là, tu sais. On dirait que j'essaie toujours de dire comme, ouais, mais c'est pas juste négatif, là, tu sais. Oui, j'ai l'air de ça avec mes enfants, mais il y a du bon dans Facebook, il y a du bon dans Instagram. Puis je disais, tu sais, on n'a pas besoin d'être tant bienveillant que ça envers les réseaux sociaux.
Il y a une limite à la bienveillance.
Les autres, ils n'ont pas besoin de bienveillance. Mais, tu sais, je pense que c'est une question un peu de me justifier là-dedans, tu sais, vu que je trouvais ça difficile à écrire. Ben, je me disais, tu sais, oh, ben, si je me justifie, tu sais, ça passe mieux pour moi, tu sais, du moins, mais. C'est ça. Facebook n'a pas besoin de bienveillance. Non.
Oui, ça t'a forcé peut-être à assumer peut-être un peu plus, ou du moins moins enrobé que tu l'aurais fait naturellement ou au départ, parce que, à un moment donné, j'imagine qu'on a une gêne et qu'on a envie aussi de se justifier comme on se justifie de ne pas être sur les médias sociaux.
Oui, c'est ça. T'sais. On est tout le temps en train de se justifier, c'est peu importe. Là, c'est ça. Là. On est humain.
et à peu près, rends-toi à peu près, je pense que c'est à la semaine 2 ou à la semaine 3 dans ta narration, parce que. Pour l'instant, tu sais, y a rien dans l'album qui, ben, en fait, c'est mentionné, mais je veux dire, on peut oublier que le contexte, qu'on est en 2020, qu'on est en pandémie et le reste, mais il t'a mis en scène un événement, dans le fond, qui arrive en cours de pause, qui est justement un drame qui a eu lieu à Québec à ce moment-là, et je trouvais que c'était un peu le moment où la temporalité du réel, dans le fond, nous rattrapait, puis on sortait un peu de ta bulle pour se retrouver un peu, pour se situer peut-être temporellement à Québec, temporellement à telle date, dans telle période, etc.
Oui, effectivement, toute personne de Québec, je pense, va pouvoir reconnaître ce moment-là. Ouais, ça a été très marquant. Puis je pouvais pas le mettre. Parce que, tu sais, oui, c'est ça, c'est comme c'est le seul moment où on comprend où est-ce qu'on se trouve à l'époque puis à l'endroit, effectivement. Mais c'est ça, en fait, c'est arrivé exactement quand j'ai commencé ma résidence. D'écriture, puis j'habitais, tu sais, la maison de la littérature était littéralement, tu sais, ce soir-là, je devais être à la résidence. C'était ces rues-là, tu sais, tu te dis, hey, en tout cas, c'était comme complètement, d'abord, c'était un événement qui avait d'une grande tristesse, puis d'un côté, tu n'as pas le choix de te dire, ben là, j'étais supposé d'être en train de travailler, de pas d'être avec mes enfants, mettons, ce soir-là, etc. Donc, ça faisait tellement partie de mon quotidien à ce moment-là que j'avais comme pas le choix de le mettre. Puis je trouvais que ça mettait tellement bien en scène à quel point on est... Il faut montrer qu'on est... parce que dans la bande dessinée, pour ceux qui l'ont pas lu, je suis vraiment devant le
mémorial.
Le mémorial, les gens ont mis des fleurs. Puis tout le monde autour... prennent des photos, mais personne n'est en train vraiment d'avoir une réflexion, d'avoir une pensée. Tout le monde est juste en mode, je vais prendre une photo pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour montrer que j'étais là, tu sais. Puis les gens prennent une photo puis ils s'en vont, là, c'est tout. Mais c'est le genre de truc que peut-être que j'aurais fait avant, mais le fait de pas avoir de mon téléphone à ce moment-là, puis de pas penser aux réseaux sociaux, ça m'est sauté d'en face.
c'est ce qui fait la force de ce moment-là. Ouais. Je veux dire, d'un côté, la temporalité nous rattrape. Ça met en exergue le fait que t'es déconnecté, que t'étais même pas au courant. Je veux dire, ça s'est passé, tu le savais pas parce que t'étais pas sur ton téléphone, t'étais dans le bain, puis tu l'ouvrirais pas. Peu importe les alertes. Donc, ça s'intègre un peu dans cette dynamique-là, dans cette démonstration-là. T'arrives sur place, ça te confronte à la mise en scène, dans le fond, du recueillement, à la mise en scène de soi que les autres font. Donc, ça sert aussi ton propos. C'est un passage qui devient quand même, au final, très fort à l'intérieur de ce récit-là et qui a dû être nécessairement confrontant, comme tu dis, mais ça aurait pu être moi qui me prenais en photo à côté en disant, hey, pensez pour les victimes, alors que finalement, tu pensais à te mettre en scène plus qu'aux victimes, au final.
C'est ça, tu sais, un peu égocentrique en bout de ligne. Tu sais, je sais que les gens, ils font pas ça. Encore une fois, je vais justifier, mais tu sais, on fait pas ça en disant « Ah, oh, je vais être égocentrique, puis je vais juste penser à moi en prenant la photo. » Tu sais, ça vient quand même d'une pensée de « Ah, oh, je suis touchée, je veux partager aux gens que je suis là, puis que c'est très touchant en ce moment. » Mais en ce moment, t'es pas en train de vivre le moment, c'est ça, la vérité, là. T'es pas en train de le vivre. Puis oui, le fait, cette anecdote-là, justement, aussi du fait que ça démarre avec le fait que je ne suis pas au courant, que mes amis me textent sans arrêt, puis je me dis, il doit arriver quelque chose, mais j'ouvrirai pas mon téléphone, il n'y a rien d'urgent, that's it, puis que je l'apprenne le lendemain matin, puis je me disais, ben, c'est-tu si grave que ça que je l'apprenne le lendemain matin? C'est pas... Si ça avait, si ça m'avait touché, par exemple, ma famille, tu sais, je me dis qu'ils m'auraient appelé, tu sais, puis là, on s'entend que là, c'est vraiment important, tu sais, je veux dire, c'est toujours important, mais de le savoir comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était si nécessaire? Ou, tu sais, d'écouter les nouvelles, même, est-ce que c'est si nécessaire de le savoir immédiatement sur la seconde même, là?
Oui, bien, en fait, c'est qu'on est beaucoup, en fait, puis ça nous renvoie même plus largement que les médias sociaux à la consommation d'informations spontanées. Mais évidemment, dans le cas d'une tragédie comme celle-là, peu importe ce qu'il y aurait eu à télé, il y aurait eu ça.
Ouais.
C'était trop grave pour, mais dans le fond, comme tu dis dans BD, finalement, t'as bien dormi cette nuit-là, puis, tu sais, dans le fond, t'as pris conscience du drame qui s'était destiné le lendemain.
Mm-hmm.
T'étais pas touché directement, donc c'est effectivement ça change pas tant
ouais.
non plus, mais ça vient servir justement cette démonstration là. Tu sais, c'est
puis ça me fait penser que en fait quand j'ai commencé à écrire parce que cet été-là, il s'est passé beaucoup de choses, c'est l'été, l'automne, mais il y avait juste avant ma pause, il y a eu c'était-tu à Beyrouth où il y avait eu le bâtiment là qui il y avait eu des explosifs, là j'ai un blanc là j'aurais aimé avoir l'événement, mais il y a eu un gros événement, en tout cas il y a eu beaucoup de morts, puis je me souviens d'avoir vu le vidéo de ce moment-là puis d'avoir juste fait ah c'est un bâtiment qui tombe, tu sais, genre je m'étais dit ça, tu sais, change de je scroll, je regarde d'autres choses, puis comme 10 minutes après mon ami me texte en fait hey, t'as-tu vu ça, il est arrivé telle chose c'était un giga événement, ça avait pas de sens, puis je me suis dit c'est fou, je l'ai vu passer, puis j'ai juste fait ah. Oh.
C'est comme quand si même ça s'intègre dans la routine de doom scrolling, puis
exactement, tu regardes ça passer puis tu fais ah oh, ouais, encore une autre affaire qui est arrivée, ben je continue, OK, photo de chat, vidéo de bricolage avec de l'époxy, j'ai beaucoup ça moi non. Mais tu sais, ça continue comme ça, tu continues ta vie, mais alors que c'était un événement vraiment marquant, c'était important de voir ça, mais t'es ça, tu le vois pas passer, parce qu'il y a juste trop d'informations, puis on dirait qu'on devient comme blasé un peu.
Oui, blasé,
ça fait pas de sens,
dans un contexte où en plus les réseaux nous amènent beaucoup à s'enfermer aussi dans certains sujets, dans certaines thématiques. Il s'agit de regarder 3-4 fois un truc subitement, ton époxy, je suis sûr j'en regarderais 10, je serais inondé de trucs à l'époxy aussi. Mais il y a les dynamiques, tu t'en parles, les dynamiques de chambre d'écho et le reste, donc tout le climat social qui est engendré là-dessus, sans dire que ça devienne le sujet principal, mais c'est un sujet à côté, parce que nécessairement, dès que tu parles des médias sociaux, ça devient un peu une boîte de Pandore où il y a plein de petites incidences que quand on se met à y penser, ben oui, il y a telle affaire, puis oui, on s'enferme, puis oui, on se désensibilise un peu à certaines réalités, oui, on se déconnecte du quotidien, etc., etc.
Ben effectivement, puis quand tu dis une boîte de Pandore, ce livre-là aurait pu être le triple de l'épaisseur, parce que j'aurais aimé parler de l'aspect politique, entre autres, parce qu'il y avait un contexte politique très intéressant à cette époque-là aussi, où on apprenait là que les réseaux sociaux étaient et s'en servaient pour aller manipuler la vie des gens, de la population, pour aller voter d'un certain parti. Bon, ça existe encore, ça, là, puis c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant tout le temps, là. Mais là, tu te dis, là, si je commence à écrire là-dessus, je finirai plus. Ça va être interminable. Mais oui, puis je pense, quand je parlais encore de cet été-là, où il y avait eu les dénonciations, il arrive un moment où est-ce que ça devient une sorte de théâtre où tout le monde regarde « Oh là, qui va être dénoncé aujourd'hui? » Tu sais, on dirait qu'on se finit par oublier c'est quoi le mouvement, pourquoi on fait ça, qu'il y a des humains derrière ça qui racontent des choses épouvantables, puis qu'on il finit tellement par avoir de la publication là-dessus que ça devient comme... n'importe quel autre fait divers ou c'est ça, qui va être dénoncé aujourd'hui, oh mon Dieu, tu sais, un peu comme un journal à potins là. Je compare beaucoup les réseaux sociaux avec ça justement là, mais c'est ça, ça...
Puis ça devient en fait, parce qu'on parlait de la nécessité justement de choisir un parti pris, puis le fait de choisir en conclusion de ton parti pris à toi t'a permis aussi de recentrer ta réflexion par rapport aux médias sociaux, de la limiter, de la cadrer, puis de la communiquer clairement. Dans le fond, tu dis ben voici mon expérience, on se limite un peu à ça. Puis après ça, ben faites-en votre réflexion aussi. On s'approprie un peu ton expérience pour, j'imagine, nous susciter la nôtre aussi, parce que veux, veux pas, tu peux pas lire, tant pis pour les likes, sans justement te sentir un minimum interpellé en se disant, ben ok, si elle a dit qu'elle fait ça, puis que moi je le fais, puis elle a dit, hey, j'ai des problèmes de dépendance, est-ce que moi aussi j'ai un problème au final?
Sans nécessairement dire que oui, j'ai un problème ou pas, mais c'est ça, j'aime apporter le sujet et laisser la personne y aller par elle-même après d'aller dans ses propres réflexions, tu sais. Puis je pense que j'ai tendance à faire ça, tu sais, comme accompagnante à la naissance, entre autres, tu sais, je donne des rencontres, des cours, en fait, aux gens, puis j'ai toujours tendance à faire ça naturellement, de juste comme donner le sujet. Puis après, allez-y, allez, réfléchissez et trouvez la réponse par vous-même. Je pense que ça vient comme naturellement. J'aime faire ça de cette façon-là.
Alors, ben, on peut voir les réflexions que tu nous proposes et que tu nous suscites avec ce livre, donc, de quelques 148 planches. Tant pis pour les likes de Bach, c'est du côté de Nouvelle Adresse. Estelle Bachelard, Bach, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous rappelle que tout est disponible sur lavieenbd.com si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.